De retour à l'émission de littérature avec Serge Lehmann en direct par téléphone. Bonsoir Serge Lehmann, merci beaucoup d'être avec nous en direct.
Bonsoir.
Alors on va commencer par parler de la brigade chimérique avec cette première question. Pourquoi avez-vous cette volonté de créer des super-héros européens ?
En fait, il ne s'agit pas de les créer, il s'agit plutôt de les faire revivre, de les ranimer, ou plutôt même de les porter à l'existence, puisque notre point de départ, c'est qu'au fond, ils ont existé. Le point de départ vraiment originel, c'est la surprise que j'ai éprouvée quand je me suis beaucoup intéressé à une époque à la science-fiction de l'entre-deux-guerres, aussi bien en France que dans le reste de l'Europe d'ailleurs, en partant d'un étonnement de lecteur qui était que j'ai réalisé que je connaissais le domaine aux États-Unis mieux que le domaine français. Et pas seulement le domaine d'ailleurs, mais disons la vie culturelle américaine des années 20-30 mieux que la vie culturelle française et européenne à la même époque, qui me paraissait très obscure, très embrouillée, avec laquelle je n'avais pas une relation charnelle, disons. Et donc je me suis intéressé à cette période sous cet angle particulier, la science-fiction de l'époque, entre 1919 et 1939. Et j'ai découvert avec beaucoup de surprise que non seulement il y avait énormément de textes, rien qu'en France on en compte à peu près 3000, qui ont pour la plupart totalement disparu de la mémoire collective, mais que dans ces textes il y avait des figures de héros qui ressemblaient beaucoup, qui ressemblaient énormément, qui ne se distinguaient quasiment pas de celles dont les premiers dessinateurs américains de super-héros s'étaient inspirés pour créer Superman, Batman, etc. Et bah de là à l'idée de faire accomplir cette transformation à ces personnages et de les porter, en image, sur la page, j'allais dire à l'écran, c'est presque la même chose, sous une forme moderne aujourd'hui, il y avait qu'un pas qui a été franchi à l'occasion de cette bande dessinée.
Vous voulez dire que ces personnages de fiction ont existé dans la fiction ?
Oui, absolument. Notre personnage principal, le Nyctalope, est un héros de roman populaire qui a commencé en 1908 sous la plume d'un feuilletoniste à l'époque très très connu qui s'appelait Jean de Lahire. Il a eu sa première aventure en 1908 et il a poursuivi 16 aventures. Il était publié dans en feuilleton dans Le Matin, donc il avait quand même quelques centaines de milliers de lecteurs pendant quasiment 30 ans, puisque sa dernière aventure a eu lieu en 1942, je crois. Donc c'est un personnage qui, du point de vue de l'imaginaire populaire français, Lahire était un très mauvais écrivain, mais en termes de place, en termes d'importance, le Nyctalope est un personnage aussi structurant que Fantomas ou Arsène Lupin, voire même Maigret. Simenon était sans doute un génie littéraire, en tout cas quelqu'un qui avait une manière et une forme très très personnelle. Lahire avait une forme au contraire totalement banale et anecdotique, voire illisible aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'il a créé un univers qui aurait, en tant qu'univers, en tant que fond, arrière-plan culturel, aurait mérité de survivre. Et donc la disparition complète de ce monde et de plusieurs dizaines d'autres est une sorte d'énigme culturelle ou d'énigme d'histoire culturelle, puisque à côté de ces personnages, des personnages de feuilleton restent connus aujourd'hui. Et la caractéristique de ceux qui ont disparu, c'est qu'ils étaient tous plus ou moins des surhommes de science-fiction. Et donc il y a une espèce d'étrangeté comme ça historique française et européenne. Pourquoi tous ces personnages de l'entre-deux-guerres qui formaient une sorte de confrérie inconsciente dans les traces de Doc Savage américain ou du Capitaine Nemo français, c'est-à-dire étant des surhommes, pourquoi tous ces personnages ont disparu non seulement des rayons des librairies mais de la mémoire collective? On ne trouve aucune trace de ces personnages dans l'histoire culturelle, c'est très curieux. Et à partir de là, pour un auteur de SF, ce qui est mon cas, c'est assez excitant de non seulement de les faire revivre, mais aussi d'imaginer que cette amnésie dont nous avons été victimes a une cause objective dans le monde, c'est-à-dire que la structure du monde a été transformée. C'est ce qu'on raconte dans la Brigade Chimérique.
Mais du coup, vous voulez dire que la figure du Nyctalope, vous ne l'avez pas inventée, mais qu'elle était déjà créée telle que vous la racontez dans la Brigade Chimérique, ou vous la réinventez ?
On l'a partiellement réinventé parce que, en fait, c'est une création assez géniale de notre dessinateur, Jess. Moi, j'ai, quand j'ai commencé à découper le scénario, j'ai bon, le nyctalope existait déjà, donc j'ai relu quelques-unes de ses histoires avec beaucoup de difficultés, parce que réellement c'est difficile. Mais je l'ai utilisé tel que Laïr, son créateur, l'avait inventé, c'est-à-dire une sorte de grand homme mince, aux épaules carrées, riche, conquérant. Et notre dessinateur, il a eu tout de suite l'intuition que ça n'allait pas, et qu'en fait, comme on racontait la fin d'un monde, ce qui est le cas, il fallait donner au nyctalope non pas les traits d'un super-héros immortel et ne vieillissant pas, mais au contraire, les traits d'un homme vieillissant qui ressemble plus à un pépé de la Troisième République avec un masque que celui d'un Superman français proprement dit, voilà. Et ça crée un effet tout de suite très intéressant et même de mon point de vue émouvant, c'est-à-dire que le nyctalope en prend une profondeur tout à fait inattendue par rapport à ce que j'avais pensé au départ. Il est probablement le personnage central de la série, alors que c'était pas du tout notre intention au départ. C'est un vieil homme faible qui voit le monde qu'il a connu, qui est en gros le monde de la Troisième République, et même peut-être celui d'avant la guerre de 14, où il a commencé, le monde de l'Europe, disons, triomphante, s'écrouler autour de lui, et qui n'a pas ni les instruments intellectuels, ni les dons suffisants pour empêcher cet écroulement. C'est ce qui différencie ces personnages de leur homologue américain.
Mais alors, du coup, là, si je comprends bien, parce que je suis passé à côté de plein de choses dans votre BD, là, que je viens de m'apercevoir, dans la Brigade Chimérique, il y a un énorme double sens. Puisqu'il y a à la fois, vous racontez l'histoire de la fin des super-héros européens, mais c'est pas seulement une chimère, c'est que fictionnellement, dans l'histoire de la fiction, ça a vraiment existé, du coup. Allô, Serge Lehmann ?
Je vous entends plus du tout.
Excusez-moi, du coup, je vais reposer ma question. Je rapproche...
Non, mais on a un problème de liaison, je peux vous parler, mais je ne vous entends plus, il faut que vous me rappeliez.
Est-ce que là, vous m'entendez ? Du tout ?
Très très mal.
Et là, vous m'entendez mieux ? Est-ce que là, vous m'entendez mieux ?
Oui, là, je vous entends.
Ah, voilà, on va faire comme ça, alors. Donc, du coup, et là, ça va toujours ?
Oui, c'est parfait.
Ah, c'est parfait, excusez-moi, alors. C'est le petit souci aléa technique du direct par téléphone. Alors, du coup, je repose ma question sur le double sens, parce que je vous disais justement que, là, ce que vous me disiez, j'avais pas compris tous ces doubles sens qu'il y avait dans la Brigade Chimérique, et là, je suis encore plus épaté, parce que à la fois vous racontez dans le scénario de la Brigade Chimérique la fin des super-héros européens, c'est l'histoire de la Brigade Chimérique, mais à la fois dans le réel, historiquement, c'est vraiment la vraie fin des super-héros européens dans le domaine littéraire qui a été oublié comme une amnésie, vous dites.
Exactement. Je pense d'ailleurs que l'intérêt de cette bande et disons ce qui fait sa puissance esthétique, qu'on constate nous en tant qu'auteurs avec une... Je ne peux pas dire qu'on ne l'avait pas envisagé ou anticipé, mais on n'avait pas du tout pensé qu'on aurait des réactions aussi fortes. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontre dans les séances de signature ou dans les discussions nous disent « c'est l'histoire qu'on voulait lire », mais ils nous le disent avec une intensité qui fait presque peur, quoi. Et oui, vous avez très bien décortiqué le double niveau. Ce n'est pas du tout un jeu de reprise... de personnages comme ça, c'est-à-dire on a considéré qu'il y avait une énigme dans le monde culturel européen, que cette énigme touchait une production européenne des années 20-30 qui a été refoulée par l'histoire culturelle, dont on ne trouve plus de traces nulle part, et on essaye de révéler ou de toucher ou de rematérialiser la crise qui a provoqué cet oubli dans la bande dessinée. Voilà, donc il y a un enchevêtrement de la référence... On ne fait pas juste une histoire de plus, on raconte une histoire qui est vraiment arrivée et on la raconte au personnage à qui c'est vraiment arrivé. Notre but étant, outre le fait outre que c'est un sujet en or pour un créateur et qu'il y a un plaisir immense à faire revivre cette époque, notre but étant de faire vibrer quelque part, oui, une corde ou un affect qui manifestement travaille beaucoup la culture européenne ces temps-ci. En particulier quand on la voit déplorer de manière permanente son infériorité supposée par rapport à la culture américaine, ou le fait qu'elle ne sait plus se projeter dans l'avenir, ou qu'il y a une sorte de joie qui a été perdue. Bon, ben nous, on essaye de remonter aux sources de cette transformation. À cet égard, la bande peut presque être considérée comme une expérience en temps réel. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire, mais on la revit en même temps. Et on espère qu'il y a quelque chose de vraiment vivant qui passe à l'intérieur.
Mais alors, du coup, vous effectuez un travail de généalogie, et plutôt que de le faire passer par un essai, parce que vous auriez très bien pu écrire un essai là-dessus, vous en faites une fiction. Ça, c'est proprement fabuleux.
Mais dans la science-fiction, la distinction entre fiction et essai est assez hasardeuse. L'un des grands plaisirs du texte de science-fiction, ça a toujours été la théorie. C'est-à-dire que, même si on n'est pas très connaisseur de ce genre littéraire, on sait intuitivement que les grands moments d'un roman de science-fiction, c'est les moments où un personnage reformule le monde à l'aide de ce qu'il a appris et nous fait basculer dans un ailleurs cognitif, dans une autre dimension intellectuelle qui nous laisse ensuite complètement abasourdis. Le grand spécialiste de ça, c'était Philippe K. Dick, qui était l'homme des théories toutes plus bizarres les unes que les autres. Donc la distinction entre l'essai et la fiction dans la SF, c'est une distinction qui existe, mais la frontière est très perméable, quoi. Voilà. Donc effectivement, on a formulé le problème auquel on s'attaque de manière théorique, la fin des super-héros européens, mais on y répond en pratique par une histoire.
Et du coup, vous y répondez par une histoire. Et là, j'ai envie de vous poser la question de pourquoi il y a Grégor Samsa, du coup ? Parce que Grégor Samsa, là, par contre, la figure de Kafka, elle est bien connue de tout le monde.
Alors, il y a Grégor Samsa pour deux raisons. La première, c'est un jour, en feuilletant une encyclopédie consacrée à ce qu'on appelle les pulps américains, c'est-à-dire les magazines de fiction populaire des années 20-30, où se sont élaborés, justement, tous les archétypes dont on parle, Superman, Batman, Doc Savage, et d'une manière très très générale, la science-fiction américaine que tout le monde connaît aujourd'hui. J'ai eu la surprise de constater que dans un de ces pulps, il y avait la métamorphose de Kafka présentée exactement comme les pulps traitaient la fiction, c'est-à-dire sous l'angle du sensationnel. Et donc on voyait une espèce de cafard géant et le titre en grosses lettres rouges sur fond jaune, Métamorphosis from Franz Kafka. Et si on n'avait pas connu le texte de Kafka, on aurait pu croire que c'était un récit de science-fiction tout à fait classique de métamorphose monstrueuse. Bon. Et j'ai trouvé assez amusant l'idée de reprendre cette esthétique qui colle parfaitement au propos, c'est-à-dire de traiter le personnage de Kafka sous l'angle super-héroïque, sous l'angle de la métamorphose tapageuse. Ça, c'est le premier aspect des choses. En fait, c'est une manière de montrer quel type d'opération on fait subir à la culture européenne de cette époque. La deuxième réponse, c'est que une des réflexions qui, moi, m'ont poussé à associer le refoulement ou l'oubli de cette période avec la question des super-héros et du surhomme, c'est une remarque du philosophe George Steiner sur le lien étrange que lui croit discerner entre Kafka et Hitler, c'est-à-dire entre le fait que certains textes de Kafka semblent annoncer ou préfigurer les camps. Et il s'appuie sur les textes bien connus de Kafka, la logique carcérale portée jusqu'à l'absurde, et aussi sur un usage très particulier que Kafka faisait du mot « vermine », puisque ce mot est celui qui désigne en allemand le personnage de Samsa, Ungeziefer, qui veut dire vermine et non cafard. Or, il se trouve que ce mot était celui qu'utilisait Hitler dans ses discours pour dénoncer les Juifs. Et nous, notre hypothèse, l'hypothèse qu'on fait, c'est que, au fond, le thème du surhomme, parce que le super-héros n'est qu'une déclinaison du thème du surhomme nietzschéen, a été balayé de la conscience collective européenne, rendu totalement, même pas politiquement correct, ce serait un euphémisme, mais impossible à penser après les nazis, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors que les Américains n'ont pas eu ce problème, puisque finalement, eux ne sont que les vainqueurs des nazis. Nous avons été à la fois les vainqueurs et les vaincus. Nous, toute l'Europe. Et nous avons eu affaire et nous avons participé à cette... nous sommes indissociablement mêlés à cette atrocité. Donc le thème du surhomme a été, pour ainsi dire, éliminé en tant que catégorie de la pensée européenne. Et c'est à ça qu'on s'attaque aussi et qu'on matérialise par l'inclusion de Samsa dans l'histoire.
Parce que là, les trois premiers tomes de la Brigade Chimérique, voilà, la figure de Grégor Samsa relie le tome 1, 2, 3. J'ai l'impression d'avoir une figure qui relie comme ça.
Oui, c'est une figure qui relie. Bah, c'est-à-dire que dans l'histoire, en termes de feuilleton pur, puisque c'est quand même un feuilleton en 12 épisodes et en 6 livres, d'un point de vue feuilletoniste, le personnage est très intéressant parce qu'il est très ambigu, il est très mystérieux, il ne dit pas tout de suite ce qu'il sait. Et beaucoup de gens cherchent à le contrôler, à le retrouver, à l'éliminer. parce que lui sait ce qui se prépare en Europe centrale, c'est même sa nature. On pourrait dire qu'il en a été la première victime. Donc, oui, il fait le lien, il est une sorte de fil rouge qui est le... Il est celui qui connaît les secrets, et quand les secrets sont délivrés, on bascule dans la dernière partie de la série.
Il y a une autre personne, une autre figure principale.
Je vous entends très mal.
Et là, est-ce que vous m'entendez mieux ?
Oui, c'est meilleur.
Voilà. Et il y a une autre figure qui transparaît, notamment dans le tome 3, c'est Jean Sévérac. Alors là, du coup, Jean Sévérac, c'est qui ? Est-ce que c'est aussi une figure que vous avez trouvée dans l'histoire ?
Non, ce n'est pas une figure qu'on a trouvée dans l'histoire. Il est plutôt la synthèse de tous les grands héros et à la limite de la surhumanité qui hantait la fiction française et européenne à cette époque. C'est un personnage de la... On a essayé de condenser en lui tous les traits qui nous intéressaient, tous les traits qui nous paraissaient sauvables du surhomme. C'est un soldat de la guerre de 14, donc il a été courageux sous le feu et il a l'auréole de la gloire militaire. C'est un médecin, donc il a servi dans les tranchées aussi comme médecin militaire, donc il est avant tout là pour sauver des vies. C'est un curateur. C'est un scientifique puisqu'il s'intéresse au sérum et au progrès technique et au progrès de la médecine. Donc il a la relation à la science qui est la caractéristique des surhommes de la science-fiction au XXe siècle. C'est un aristocrate, donc il a aussi une espèce de filiation magique avec les origines, avec les grandes familles françaises, avec le Moyen-Âge et l'univers mental très particulier que je connais un tout petit peu, que j'ai beaucoup aimé découvrir aussi chez Michel Pastoureau. La relation aux animaux sacrés qui préside à pratiquement toutes les filiations aristocratiques, ça nous plaisait beaucoup d'insister là-dessus, parce que les animaux sacrés, eh ben, quand on est dans un univers où les personnages s'appellent Spider-Man et compagnie, les animaux sacrés, ils sont toujours parmi nous, voilà, donc on a réintroduit le thème de cette manière. C'est un catholique, mais il est aussi philosémite, ce qui nous permet justement d'éviter la contradiction et la disjonction des thèmes religieux. On a essayé réellement d'en faire un soldat, un personnage plausible. Et en fait, il a quand même un modèle, bien qu'il ne soit pas, c'est vrai que soit notre invention, il a un modèle qui est un roman très très étrange de J.H. Roniéné, qui est le père fondateur de la science-fiction française, que l'on connaît surtout aujourd'hui pour être l'auteur de La Guerre du Feu, et puisqu'il a aussi inventé le roman préhistorique. Mais J.H. Roni a écrit une vingtaine de romans et de nouvelles de science-fiction absolument superbes entre 1890 et 1930. Et parmi ces textes, il y avait un roman très bizarre, peut-être le moins connu de ces romans, L'énigme de Givreux, qui raconte l'histoire d'un soldat de la guerre de 14, le lieutenant Givreuse, qui est sur le champ de bataille l'objet d'une expérience scientifique inattendue qui le dédouble. Qui lui donne un double parfait, voilà. Et l'intérêt du roman, c'est d'une interrogation sur l'identité, qui est l'original quand les deux corps, du point de vue biologique, sont l'indissociable et qu'ils ont les mêmes souvenirs. Et à partir de quand cesse-t-il d'être le même exactement, le même personnage, voilà. À partir de quand l'un devient multiple. On a utilisé cette silhouette générale, donc qui était dessinée dans un roman de 1917, écrit juste à la fin de la guerre, pour créer notre personnage de Sévrac.
Et alors, j'ai une autre question, c'est sur Georges Spad. Est-ce que Georges Spad a existé ? Est-ce que c'est un vrai auteur de... est-ce que c'est un vrai écrivain ou est-ce que c'est une invention également ?
C'est le sujet le plus mystérieux auquel on ait eu affaire. Apparemment, Georges Spad a existé. Il y a des livres et des écrits publiés sous ce nom qui était un pseudonyme, on le sait avec certitude. Le pseudonyme, ce qu'on appelle le house name, c'est-à-dire un pseudonyme utilisé par plusieurs auteurs dans une maison d'édition Louis Querelle, qui était une maison d'édition de l'entre-deux-guerres. On n'est pas sûr de qui l'a utilisé. Les pistes les plus probables nous mènent du côté d'un écrivain, ou plutôt d'une écrivaine appelée Renée Dunant, qui était une auteure féministe, lesbienne, proche des surréalistes, et en même temps écrivant de la science-fiction et des feuilletons érotiques, enfin... le personnage nous a paru assez fascinant parce qu'il était très emblématique de l'époque et de l'espèce de mélange culturel généralisé qu'on voulait obtenir. Voilà, un personnage transgenre qui passe dans tous les milieux. Donc Georges Spad a bien existé, on n'est pas sûr du tout qu'elle ait eu l'apparence qu'on lui a donnée, on n'est pas sûr que ça ait été une femme, on n'est pas sûr qu'il n'y ait eu qu'une seule personne, on pense qu'il y en a eu plusieurs. Mais disons qu'au bout d'un moment, on a cessé de chercher chercher la vérité pour inventer notre Georges Spad, et elle nous plaît beaucoup comme ça.
Mais par contre, les textes, est-ce qu'on les a vraiment? Est-ce que l'homme chimérique est un vrai texte?
Oui, l'homme chimérique, c'est un vrai texte, mais on n'en possède aucune édition complète, puisque c'est en fait une espèce de suite romanesque qui est parue sous plusieurs formes, fascicules, romans, nouvelles dans des journaux. On sait que cette suite formait une sorte d'immense roman totalement décousu, très surréaliste en fait, mais on n'en possède aucune collection complète, c'est vraiment rarissime. Et donc, moi j'ai lu un épisode, j'ai un camarade qui m'a fait le résumé d'une nouvelle qu'il a connue. On a essayé d'extrapoler à partir de là. On a aussi des documents publicitaires des éditions Louis Querelle qui nous aident à y voir un peu plus clair. Mais enfin, tout ça reste très très chimérique pour le coup, vraiment. Et au fond, on n'est pas sûr de vouloir en savoir davantage. Ce qui nous plaît, c'est tout le jeu littéraire de cette bande dessinée, c'est d'exploiter des lacunes dans l'histoire pour y mettre ce qui nous plaît ou ce qui nous paraît nécessaire. Pas forcément, on n'est pas forcément des historiens, là. On est plutôt des créateurs.
Et alors, j'aimerais revenir sur ça, sur ce que vous avez dit, qui était vraiment fabuleux, c'est cette invention des...
Mais à nouveau, je vous entends plus.
Je voulais revenir sur cette invention des super-héros européens. Est-ce qu'on peut dire que les super-héros ont été inventés en Europe plutôt qu'aux USA?
Il faudrait être tout à fait clair sur ce qu'on entend par super-héros. D'abord, notre but n'est pas du tout de voler qui que ce soit, quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est les Américains qui ont inventé Superman, Batman et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les super-héros, et rien ne pourra changer ça. Disons que ce qui nous a paru très très singulier, c'est l'absence totale d'intérêt des créateurs européens pour ce thème, alors que pendant toute la dernière moitié du 19e siècle et toute la première moitié du 20e siècle, dans le fantastique et la science-fiction européenne, il y avait des personnages qu'il aurait suffi d'un rien pour faire basculer dans le camp des super-héros. On a dans notre petite communauté, dans notre club, comme je l'appelle, un vrai génie du scénario de bande dessinée qui est anglais, qui s'appelle Alan Moore, à qui on doit une magnifique interprétation de l'histoire de Jack l'Éventreur, From Hell, à qui on doit une réinvention du mythe des super-héros modernes très politiquement tendu, qui s'appelle Les Watchmen, dont tout le monde connaît ses œuvres aujourd'hui. Et on lui doit aussi une bande dessinée absolument remarquable, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, dans laquelle il utilise des personnages de la fin du 19e siècle les plus connus, le capitaine Nemo, l'homme invisible, le docteur Jekyll, en les traitant exactement comme des super-héros. Et en fait, le simple fait de lire cette bande dessinée, d'un seul coup, vous fait passer dans un univers uchronique, c'est-à-dire vous avez l'impression d'être à la fois tout à fait en terrain connu et en même temps vous vous dites « Ah mon Dieu, mais si ces personnages avaient été exploités comme des super-héros, on aurait eu 30 ans d'avance sur les Américains au lieu d'avoir 50 ans de retard. » Et donc, mais ça n'a pas été le cas. Donc est-ce que les Européens ont inventé les super-héros? Disons qu'on a créé l'archétype. En fait, on a repris un archétype assez classique, qui était celui du surhomme nietzschéen de la fin du 19e. Mais au moment de la grande transformation finale, on a hésité. On ne l'a pas fait pour des raisons qui sont très difficiles à comprendre, que je ne peux pas développer ici. Et finalement, ce sont les Américains qui l'ont fait à la fin des années 30.
Vous avez parlé de notre club. Qu'est-ce que c'est notre club?
C'est une appellation assez humoristique que je donne à la science-fiction en très général. Disons que la science-fiction comme milieu littéraire et comme mode de vie collectif, parce que c'est réellement ça souvent pour les plus passionnés, existe tel quel depuis la fin des années 30 en tant que système éditorial mondial. Elle existe depuis 1953. C'est un club qui compte quelques centaines d'écrivains et critiques, quelques milliers de fans, voilà, et qui diffuse sa production partout dans le monde, aussi bien dans le roman que dans la bande dessinée, au cinéma, partout, y compris dans les essais maintenant. Et c'est un côté cryptique qui m'amuse beaucoup de dire notre club.
Alors, nous allons en venir à Retour sur l'horizon, qui vient de paraître chez De Noël dans la collection Lune d'encre, 15 grands récits de science-fiction, une anthologie que vous avez réunie et que vous présentez. J'aimerais revenir sur votre sur votre introduction, enfin sur votre préface. Vous commencez par l'article de Maurice Renard en 1909 qui s'appelle « Du merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès » et vous dites que c'est la première théorie de la science-fiction.
Oui, en fait cet article a été a servi de référence à tous les auteurs français de l'entre-deux-guerres qui considéraient que le merveilleux scientifique, et puis après le Renard lui-même a jugé le terme assez lourd et il préférait parler de roman scientifique tout simplement. Il perdait une nuance, mais disons l'élocution en trouvait facilité. Tout le monde considérait que le roman scientifique avait été défini. Or, cette période, comme je l'ai expliqué un instant à propos de la brigade, a été complètement oubliée de l'histoire. Et donc ce papier a disparu complètement de la conscience littéraire, y compris des amateurs de science-fiction. Et donc on s'est retrouvé à partir des années 50, quand le terme science-fiction a été importé des États-Unis directement, c'est-à-dire sans être traduit. Science-fiction en américain, ça signifie fiction scientifique, ça ne veut rien dire d'autre. C'est comme love story qui veut dire histoire d'amour, c'est pareil. Voilà. Mais quand la science-fiction a été introduite en France avec les premières traductions américaines en 1951, le mot a fait son apparition et il a absolument recouvert tout le domaine. Si bien qu'aujourd'hui, quand on ouvre un dictionnaire français, on trouve science-fiction, genre américain, créé en 1926 par Hugo Gernsback, le premier éditeur américain. Bon, or, il se trouve que la définition que donne ce premier éditeur, Gernsback, qui a joué un très très grand rôle dans l'histoire de la SF, est à peu près la même, en moins élaborée, que celle de Renard. Donc, cette anthologie paraissant à la fois à l'occasion d'un événement éditorial, puisque c'est les 10 ans de la collection Lune d'encre, mais aussi... Et c'est tout à fait une coïncidence, c'est ça qui est remarquable. Pour les 100 ans de cet article, il m'a paru assez opportun de rappeler maintenant que on n'a pas inventé les super-héros, mais on a par contre inventé la science-fiction. Enfin, nous, les Européens, au sens le plus large. Et les Français ont été les premiers, les auteurs français ont été les premiers à la définir de façon extrêmement poussée. J'en rends compte très très brièvement dans l'anthologie, parce qu'une préface d'anthologie, c'est quand même un espace limité. Mais c'est un texte assez long et qui fait vraiment le tour complet de la question dès 1909. Donc la réponse est que on peut considérer que ce texte est vraiment la première théorie littéraire de la science-fiction. Et je trouvais important de le signaler quand on est en phase d'examen en ce moment de l'histoire culturelle française.
Vous dites à un moment donné dans votre préface... La SF déborde la question des genres pour devenir une forme de la sensibilité générale. Quels éléments vous permettent d'affirmer cela ?
Je dirais que si on regarde les écrivains, prenons par exemple les deux écrivains qui ont le plus fait parler d'eux, le plus créé d'agitation, de polémique, bref, qui ont contribué à faire sentir la littérature française un peu vivante et un peu sortie de l'autofiction, un peu sorti de choses déjà assez anciennes, ce sont Michel Houellebecq et Maurice Dantec, quel que soit ce qu'on pense de leurs œuvres et de leurs discours parallèles. Bon, ce sont deux auteurs de science-fiction, et les œuvres qui ont posé problème sont des œuvres de science-fiction. Elles sont parues dans des collections généralistes, elles ont été lues par tout le monde, personne n'a dit c'est de la science-fiction, tout le monde a dit c'est de la littérature, après on aime ou on aime pas, c'est autre chose. Si on regarde... le plus grand imagier actuel en France, Enki Bilal, c'est quelqu'un qui a consacré sa carrière dans la bande dessinée à faire de la science-fiction. Si on regarde un auteur comme Philippe Roth qui emprunte à la SF sa technique de l'Uchronie, c'est-à-dire d'un monde reconstruit à partir d'une divergence historique, si on regarde le dernier roman de Thomas Pynchon, Contre-jour, si on regarde le succès actuel à la fois public et formel d'un auteur comme Haruki Murakami, qui est sans arrêt à la lisière du fantastique, de la SF, de l'étrange. Tous ces romans paraissent hors collection et ils n'ont absolument pas besoin du label pour exister. Ce sont pas des... Voilà. Donc la SF est en train de s'émanciper de son statut de catégorie de la consommation culturelle pour devenir une sorte de réservoir d'idées, d'images, de thèmes, de techniques d'écriture, d'ambiance, dans lequel tout le monde peut puiser sans avoir à justifier du fait qu'il appartient à un sérail spécialisé ou pas. Et c'est en ça que je dis que ça déborde très largement aujourd'hui la question des genres, et j'en suis d'ailleurs très content.
Et alors, c'est quoi cette question, enfin, ce problème qu'il y a avec l'histoire de la science-fiction en France?
Ben, c'est c'est pas un problème, c'est une multitude de problèmes qui se sont enchevêtrés et on n'aura vraiment pas le temps de le développer là. On pourrait dire, pour aller au plus simple, que jusqu'à la Première Guerre mondiale, disons toute la période qu'on pourrait qualifier de vernienne, c'est-à-dire la période de l'Europe à peu près heureuse, la science-fiction a lentement monté en puissance à partir des années 1885-90. On le voit en France avec Villiers de l'Isle-Adam et L'Ève Futur, on le voit en France avec Rony qui commence à publier ses premiers textes, et dont la première production théorique, c'est le Manifeste des Cinq contre Zola, qui annonce la fin du naturalisme. On le voit en Angleterre avec Stevenson et Dr. Jekyll et d'autres œuvres. On le voit avec l'arrivée de Wells. On voit ensuite émerger en France le courant pataphysique d'Alfred Jarry, qui connecte à la fois le futur surréalisme et la SF. Bon. Il y a là une sorte d'activité intellectuelle, esthétique, très très intéressante. Et on trouve même dans la toute jeune NRF des articles de François Rivière disant, parmi les pistes qu'on peut explorer pour le renouveau du roman après la mort du naturalisme, il y a le roman scientifique, c'est une possibilité. Et cette possibilité s'éteint avec la guerre de 14. Après la guerre de 14, la science et la technique il est pratiquement impossible d'en faire du matériau littéraire, sauf pour prophétiser des catastrophes et de la déshumanisation. C'est la raison pour laquelle le seul vrai courant de la SF qui a été à peu près reconnu par la littérature, et je pense que c'est assez largement indépendant des questions d'écriture, c'est le courant catastrophiste qui n'utilise la science que pour prophétiser une apocalypse, quoi. Or, la SF est non pas un genre optimiste, mais un genre qui dit l'avenir, ce sera ni pire ni mieux, ce sera différent. Et ce sera différent à cause de la force motrice de l'histoire qui, en ce moment, est la technoscience. Bon, ben ça, pour aller au plus simple, vraiment au plus simple, c'est un discours que la littérature française, et même la culture française au sens large, n'a pas pu entendre, n'était plus équipé pour entendre pendant tout le XXe siècle. On en sort seulement maintenant, et encore avec de grands soubresauts de violence, de grandes difficultés. Donc, il y a eu un siècle pendant lequel il n'a pas été possible en France de faire communiquer science et art. Et je pense que la SF a payé le prix de cette disjonction. Elle l'a payé au prix de son inexistence culturelle, on va dire.
Eh bien, merci beaucoup Serge Lehmann d'avoir répondu à mes questions. Vraiment, mille excuses sur cette liaison téléphonique qui est de notre faute, qui fait qu'on des fois vous nous entendiez mal.